Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis. Bonjour Denis Siffer.
Bonjour.
Votre regard dans Politis, première leçon turque, vous revenez sur les élections législatives et sur l'élection présidentielle. Le premier tour de la présidentielle qui, contre toute attente, écrivez-vous, a placé Recep Tayyip Erdogan en position favorable et vous précisez, contre toute attente, d'abord pour nous-mêmes.
Oui, on a toujours tendance à prendre nos désirs pour des réalités. Je pense qu'on était sans doute nombreux dans la gauche française à souhaiter plutôt une victoire de l'opposition, c'est-à-dire une défaite de l'autocrate Erdogan, et probablement aussi aidé par des sondages qui ont été trompeurs, hein, qui sont venus d'Istanbul. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que nous qui nous sommes illusionnés, disons. Il y a aussi justement les élites d'Istanbul, la jeunesse occidentalisée de Turquie qui croyait dur comme fer. C'est pas complètement plié, hein, si j'ose dire, mais tout de même, on voit bien que la victoire d'Erdogan est infiniment probable.
Et vous soulignez que la domination du président sortant s'est vérifiée jusque dans les régions dévastées par le séisme du mois de février.
Oui, alors ce que je dis, ce qui, je suis pas le seul à le dire, c'est qu'il y a vraiment deux Turquies, non seulement culturelles et sociologiques, mais géographiques. Ce pays est quand même à la ligne de fracture entre l'Asie et l'Europe. Et il y a cette vaste zone rurale, surtout rurale, d'Anatolie, qui constitue l'Est et le Sud du pays, qui a voté finalement massivement pour Erdogan. Et dans cette région, et notamment à l'Est le plus extrême, c'est à tout près de la Syrie, il y a eu ce terrible tremblement de terre du mois de février. Et on a vu à l'époque que les gens en voulaient beaucoup aux politiques, parce que ça révélait à la fois la corruption des architectes, l'incurie du régime, etc. Et on pensait qu'Erdogan allait le payer dans les urnes. Eh bien, pas du tout, finalement. Il fait des scores très, très massifs dans cette région.
Vous écrivez que l'autoritarisme qui inquiète l'opinion acquise à une certaine modernité est vécu ailleurs comme protecteur, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Oui, c'est-à-dire que, alors, justement, dans cette zone, enfin, l'Anatolie essentiellement, les gens, finalement, il y a l'aspect religieux, traditionnaliste, conservateur, que Erdogan incarne et qui plaît beaucoup à cette partie de la Turquie, en opposition à une partie européenne, en tout cas aussi des grandes villes, qui est plus moderniste, plus occidentalisée. Donc, et justement, Erdogan incarne un peu une protection contre cette occidentalisation de la Turquie à laquelle beaucoup résistent. Hein. Mais il y a aussi l'idée de l'homme fort. Donc ça, c'est à l'extérieur également. C'est-à-dire que le côté grande gueule d'Erdogan qui invective Macron, par exemple, brise les tabous des codes diplomatiques, tout ça, ça plaît à cette partie de la population. Mais là, on retrouve des traits qu'on a chez Trump et qu'on a surtout chez Poutine.
Vous évoquiez cette illusion avant ces élections législatives et cette présidentielle, illusion aussi venue d'Istanbul. Et la leçon, écrivez-vous quelque chose d'universel ?
Oui, parce que la Turquie est un pays très singulier, je l'ai dit, par sa géographie, l'antagonisme des deux Turquies, culturellement, religieusement, politiquement, géographiquement, etc. Mais en même temps, il faut se méfier, disons, de trop forcer sur cette analyse de la singularité, parce que on voit bien que ces dichotomies, ces antagonismes, on les retrouve dans d'autres pays. Et finalement, c'est ce qui fait le lit des populismes. Et je fais même la comparaison qui est un peu audacieuse, parce que c'est évidemment très différent et très lointain, avec les États-Unis d'Amérique. Finalement, Erdogan représente un peu le Trump, et l'opposition qu'il y a entre démocrates et républicains, mais aussi entre les grandes villes aux États-Unis et puis le centre du pays qui est plus républicain, plus rural, etc., plus éloigné aussi, disons, de la culture européenne, on retrouve en Turquie. Donc finalement, c'est pas si singulier que ça, c'est assez universel, un universalisme qui n'est pas toujours rassurant. faut le dire, mais qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve en Hongrie, qu'on trouve évidemment en Russie, quoique les élites occidentalistes et européanistes en Russie sont bâillonnées aujourd'hui.
Et vous soulignez que ce scrutin en Turquie s'est déroulé sans encombre et avec une participation massive.
Voilà, alors c'est la différence que je fais, je pense qu'elle peut se défendre, entre une autocratie et une dictature. C'est-à-dire que on voit bien que la Russie a totalement basculé dans la dictature, c'est-à-dire que les opposants sont en prison quand ils ne sont pas assassinés, les scores sont considérables en faveur de Poutine, évidemment il n'a plus d'adversaire. Là, c'est pas du tout pareil, là on a un régime autocratique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en prison, il y a le Parlement a été réduit à la portion congrue, il n'y a plus de Premier ministre, etc. Mais malgré tout, il y a eu des élections, je dirais pas libres, parce que le scrutin a été libre. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de fraude qui soit dénoncée, et il y a eu une très forte participation, près de 90%, donc là, on en rêverait en France. Donc ça c'est le côté démocratique. Mais là où la démocratie touche à ses limites, c'est que la presse est entièrement entre les mains d'Erdogan, la télévision a fait une campagne uniquement en faveur du candidat sortant, l'opposant Kiril Tarzoglou a eu très peu de temps de parole. Donc on voit très bien que la démocratie, et c'est aussi une réflexion pour nous ici en France, c'est pas simplement des élections qui donneraient un blanc-seing à un personnage, ça c'est l'autocratie. C'est pas la démocratie.
Merci, Denis Schiffer.
Merci à vous.
Votre regard dans Politis, première leçon turque.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.